Les grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Aujourd'hui, on reçoit le volleyeur préféré de ton rappeur préféré, ou l'inverse, hein, ça marche aussi. Champion épisode 10 avec Ervin Ngapet.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Champion olympique!
Champion, mon frère!
Question pour un...
Champion du monde!
We are the champions!
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Alors, salut Ervin, comment tu vas? Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà?
Ben, bien sûr, plus pas de soucis.
Alors, tu as pile 30 ans, t'es l'un des tout meilleurs volleyeurs du monde, t'as été champion d'Europe, t'as remporté deux fois la Ligue mondiale, mais avant de commencer, je voudrais qu'on écoute juste un son.
C'est pas une fille pour moi, moi je m'en bats les yokou. Je lui dis que je l'aime quand elle saigne, je la consomme comme un zédou. Comme elle est deck, même dans le noir, on est complice de tout. Je rappelle son père quand je parle, donc elle va tout faire.
Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Parce que apparemment t'es pas que volleyeur, t'es aussi rappeur.
Bah, j'ai commencé le rap avant de jouer au volley en fait.
Ouais, c'est ça, tu dis que t'es un rappeur qui est devenu volleyeur.
Ouais, ouais. C'est un journaliste qui m'avait dit ça. Et il me dit finalement, toi t'es un rappeur qui a percé dans le volley quoi. Et donc c'est une phrase qui m'avait fait rire et c'est pour ça que je la ressors beaucoup. Mais finalement, si on regarde bien, c'est vrai.
T'as commencé à 12 ans?
J'ai commencé à écrire à 12 ans, après c'est devenu plus ou moins sérieux, on a monté, c'est un peu le parcours de beaucoup de rappeurs, tu montes un groupe avec les potes, et puis après ça devient sérieux, le groupe il se dissout parce que chacun doit faire sa vie, puis tu montes un autre groupe, et en fin de compte c'est comme ça que c'est parti. Ouais.
Je voulais te faire écouter un truc, parce que du coup t'es pas le seul sportif qui rappe, et Djorkaeff aussi.
Ah Djorkaeff,
moi
je l'ai entendu.
Tu le connais?
Ouais, je l'ai entendu.
Elle est géniale. Vivant ta lumière, attends je me la mets deux secondes, parce que c'est mon petit plaisir. C'est du rap d'ailleurs.
Ouais, moyen.
Ah, ça sent bien les années 2000. Hein. Ouais. Veste en cuir. Hein. Ouais. Pas que des réussites quoi. Et pourquoi t'as pas continué là-dedans en disant je vais faire que ça?
Bah parce que je faisais quand même, j'étais pas mal sportif quand même. J'étais sportif autour, j'ai fait beaucoup de foot.
Parce qu'avant t'avais un bon niveau je crois en foot, t'as même joué avec Levin Kurzawa.
Ouais ouais, bah c'était à Fréjus ça, c'était à Fréjus.
Ouais il vient de Fréjus. Ouais, ouais.
On a fait deux ans ensemble, on a joué deux ans ensemble. Ouais.
J'ai vu une histoire.
Levin il était au-dessus quand même, il était déjà
au-dessus. Déjà super chaud.
Ouais, il était déjà chaud. Ouais.
Parce que j'ai vu une histoire où c'est un match, je sais pas, vous jouez et puis on te fait sortir. T'étais super énervé, ah, tu te
pété,
casses.
Ouais j'ai pété les plombs.
Et c'est Levin qui rentre.
Et c'est Levin qui rentre. Mais en fait, c'était le truc, c'était qu'il faisait reposer Levin, le coach.
Ah, c'était vraiment lui la star déjà.
Ah ouais, bah ouais. Il faisait reposer Levin. Et moi, je suis sorti, j'ai pété les plombs 0-0, j'ai pas marqué et tout. Levin, il est rentré, il a marqué direct, on a gagné, j'ai pété les plombs, je me suis barré.
Ce qui ressort avec le. Justement, alors, du coup, lâcher le foot pour le volley, c'est toi qui dis ça justement dans une interview où tu dis que le volley, c'est vraiment le côté collectif. Et tu dis la joie de vivre en communauté.
Ouais, parce que le volley, c'est vraiment, je pense, c'est un des seuls sports où tu peux pas faire la différence tout seul. T'as toujours le collègue qui doit te donner le ballon, le bon ballon. Et en fait, il y a un certain feeling dans le sport qui fait que t'es obligé de bien connaître ton collègue, en fait. Souvent, les groupes qui gagnent, c'est les groupes les plus soudés, les groupes qui se connaissent le mieux, les groupes qui vivent ensemble aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain. Et donc c'est ça un peu qui fait la différence dans le volley et que moi j'aime bien, c'est que tu te retrouves dans un groupe de 15 mecs des fois où t'as rien à voir avec personne et finalement au bout de deux mois de préparation, c'est ouf. Et c'est ça qui est beau dans le volley. Ouais.
Et t'as tout de suite été bon, enfin, t'as tout de suite senti que c'était
ton truc ? En fait j'ai commencé à 14 ans mais finalement je jouais depuis... bien avant, parce que j'étais dans les salles, je suivais mon père tous les jours aux entraînements, aux matchs.
C'est un peu une histoire de famille, dans ton père, il est volleyeur aussi.
Ouais.
Ton frère aussi, je suis du volley.
Aussi, ouais. Donc finalement, j'ai commencé tard, mais j'avais pas tant de retard que ça au niveau du volley, parce que j'en voyais tous les jours.
Toi, t'étais quel genre d'ado? Est-ce que du coup, t'étais vraiment à fond dans le sport ou tu faisais ça en dilettante?
J'étais pas à fond dedans tout de suite, c'est venu petit à petit en fait. J'ai fait un premier centre de formation à Bordeaux où je rentrais le week-end et le week-end...
Quel âge ça? 13, 14 ans
ouais,
ça
15 ans, ouais, il me semble, 15-16 ans. Tu rentres le week-end et le week-end, j'en ai marre du volley, moi je préfère aller avec mes potes et tout, tu vois. Donc j'étais pas à fond dedans tout de suite, c'est vraiment après quand j'ai signé vraiment mon premier contrat jeune à Tours. dans le club avec le plus gros palmarès en France où il y a eu vraiment un vrai déclic, un vrai changement.
Et t'étais quoi? T'étais quel genre d'ado quoi? T'étais appliqué, sérieux ou plutôt à faire des conneries?
Au sport?
Ouais, de manière générale.
J'étais turbulent, hein, c'était bizarre un peu. Ouais, j'étais turbulent, mais après c'était pas un truc de fou non plus, mais j'avais tendance à être un peu turbulent. Ouais.
Et c'est le sport qui te canalisait ou même pas, ou même dans le sport t'étais?
Non, même dans le sport. Ouais. Même dans le sport c'était pareil.
Et c'était qui tes modèles quand t'étais plus jeune, sportif je parle?
Bah, au niveau du volley, moi j'ai toujours aimé Franz Grandvorka. Ça a été un grand joueur. Ouais. Et moi je jouais même pas au volley encore, mais mon père l'entraînait en fait, et quand je venais aux entraînements je jouais que lui. Et je kiffais vraiment ce joueur. Après, j'ai plein de... Moi,
ça peut être hors du volet, parce que tu as commencé avec le foot.
Hors du volet, il y en a plein. Il y a Zidane, il y avait Eto'o, forcément, parce que je suis franco-camerounais, tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi Eto'o qui m'a fait rêver. Après, moi, je m'appelle Irvine par rapport aux basketteurs.
Ça, je voulais
J'ai mangé des cassettes de Magic Johnson toute ma jeunesse aussi, tu vois. Donc,
et ton père, il t'a jamais poussé au basket? Parce qu'avec ton gabarit, t'aurais pu.
On jouait aussi. À la maison, il y avait le but de foot, le terrain de basket, le petit panier. Mais il n'y avait pas de terrain de volley, tu vois, c'était basket.
Pourquoi pas de basket?
Après, pendant un moment, je fais du tennis aussi. Puis à un moment donné, quand j'ai voulu faire du basket, je faisais foot, tennis, volley en même temps. Et ils ont dit, ça suffit, tu vois.
Ouais, je veux choisir.
Ouais.
Et t'écoutais quoi, ado? T'étais déjà à fond dans le rap?
J'ai toujours été rap et rap français en plus. Vraiment,
c'était quoi alors?
J'ai beaucoup écouté Mafia Carfree.
Ouais.
J'ai beaucoup écouté Mafia Carfree.
Mafia Carfree, ouais. C'est trop bien. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi, ça marchait dessus. Nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, en garlouche.
Forcément, il y avait Booba, il y avait Rof, il y avait. Après, moi, j'écoute de tout. Hein. Au niveau du rap, j'écoute. Après, je fais mon tri, mais j'écoute.
Ouais.
Donc, tout ce qui est rap français qui sort, en général, j'écoute. Hein.
Et t'étais quel genre de niveau style et tout? Est-ce que t'étais. Je sais que c'est toujours hyper important quand t'es au collège.
Ouais.
Pour avoir la bonne marque, la bonne sape, le truc, t'étais...
La marque, pas trop, mais on était en mode... moi, j'étais beaucoup en mode...
Quinri,
hein. Non, pas trop Lacoste, ouais.
Ah, c'est plus sur 57.
Les baggies, ouais, grave.
Echo, c'était quoi les marques, c'était...
Il y avait quoi, les Fubu, les trucs comme ça,
ouais.
Tu vois.
Oui, c'était vraiment plus en mode...
Lacoste, c'était que la banane.
En mode Ricard, ah oui, la banane Lacoste.
Important, mais sinon, j'étais pas trop Lacoste.
Est-ce que après, avec le temps, avec la médiatisation qui arrive, t'as eu tendance à faire plus gaffe à ton style? Que j'avais lu un truc. Alors, un jour, en Italie, pendant l'Euro, on t'a proposé d'aller chez le coiffeur et t'es resté 3h30.
J'ai toujours fait des couleurs, des machins. Non, mais ça, c'est qu'il y avait pas. Là, j'avais pas eu le temps d'y aller. Il fallait trouver un coiffeur et c'est un ancien de l'équipe qui m'avait accompagné, je me souviens.
Pierre Pujol.
Ouais, et normalement, moi, les coiffeurs chez qui je vais, ils font ça en 30 minutes.
Lui, il connaissait pas.
Il était pas habitué et tout. Et du coup, on est resté 3 heures au coiffeur avec l'ancien là et t'es dégoûté.
Et ça allait finalement, elle était bien vraiment à la coupe. Ouais,
Le truc en fait, c'est que ça a duré 3 heures et la coupe elle est restée 2 jours. Tu vois, la couleur est restée 2 jours, mais non, c'était bien.
Et alors, justement, avec la médiatisation, toi t'as été médiatisé assez rapidement en fait, t'as eu le succès et la reconnaissance assez vite. Comment tu l'as géré? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu étais préparé?
Non, pas du tout.
Ouais.
J'étais pas du tout préparé et en plus, c'est quelque chose que j'aimais pas forcément, parce que tu vois, comme je te disais, dans le volley, c'est vraiment un sport d'équipe, et tu vois, à un moment donné, il y a eu beaucoup plus de médiatisation sur moi.
Toi, t'as été vraiment la première un peu star
que sur l'équipe, tu vois, et du coup, on en a même beaucoup parlé avec les mecs, bon, parce qu'on se connaît depuis qu'on est en équipe de France jeune ensemble, c'est la même génération, et en fait, pour que le volleyball passe un cap au niveau des médias, il fallait... jouer le jeu, quoi.
Ah ouais.
Parce que moi, je voulais pas. Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas répondre aux questions.
Mais qui est-ce qui te demande ça? C'est quoi? C'est
on en a pas. Non, c'est vraiment avec l'équipe. On en a discuté et tout. Puis même, on n'était pas habitués, nous. C'est en 2015 qu'on fait champion d'Europe. Avant le championnat d'Europe, on fait une conférence de presse. Il y a quatre journalistes. Et quand on revient à l'aéroport, il y en a 50.
Ouais, mais ça doit être tellement bizarre.
On a fait comme ça. Et on a fait la première fois qu'on a fait des journées médias, des marathons médias et tout. Et finalement, en fait, c'était beaucoup moi qui étais appelé sur les plateaux. Enfin, c'est pas un exercice que j'aimais faire. J'étais pas à l'aise avec ça. Et après, petit à petit, ça a continué parce que moi, je me suis dit, c'est un engouement, mais ça va durer un mois. Là, après, c'est fini. Et finalement, ça a continué parce que les gens, ils ont aimé notre état d'esprit, notre groupe. Et finalement, on a parlé avec les gars et on a dit qu'il faut jouer le jeu, qu'il faut se prêter au jeu parce que la médiatisation du volley va passer par là. Quoi. Ouais.
Là, les JO, j'imagine que t'es impatient, non c'est
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Parce que toi, t'as fait ceux de Rio.
Ouais.
Je crois.
Ouais.
T'en as un bon souvenir?
Non.
Ah ouais?
Ben non.
Mais vous étiez, ça s'était pas hyper bien passé.
Ouais, on n'est pas sorti de la poule. C'était contre-performance, une contre-perf de fou. Après, bon souvenir, c'est la cérémonie. C'était.
Ouais, l'expérience du truc.
C'était l'expérience. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'on a raté notre compète. Parce qu'on était, pour nous, tous, staff compris, à part le coach Laurent Tilly qui les avait fait à Séoul. Mais c'était la première, nos premiers jeux.
Et trop impressionné.
On en a pris plein la gueule, quoi.
Ah ouais. Et après, j'ai une question que je pose souvent à tous les gens qui ont fait les JO. C'est sur le village olympique, parce qu'il y a plein de fantasmes, tu vois, autour du village olympique.
Franchement, enfin, moi aussi, j'ai lu beaucoup de trucs avant d'y aller, mais pour moi,
il y a eu
très déçu.
Ah ouais.
Et surtout quand tu sautes au premier tour, tu vois.
Ouais, mais du coup, tu restes tous les.
Non, moi, je suis parti.
Ah ouais, t'es pas resté.
Il y en a. Enfin, on avait le choix et moi, je suis parti.
Trop la haine, quoi.
Je suis parti. Je suis parti voir les mecs qui fêtent les médailles et tout, alors que, tu vois, bizarre, tu vois.
Ouais, j'avoue, c'est dur.
Mais non, franchement, à Rio, ça a été. Après, moi, comme je t'ai dit, je suis pas resté parce que les rumeurs sur le village, c'est sur les dernières semaines où il y a beaucoup d'athlètes qui ont fini et tout. Nous, vraiment, on a sauté au premier tour. Donc, beaucoup de gens étaient encore dans leur compète.
Ouais.
Mais moi, j'avais lu que le village, c'était le feu du premier au dernier jour.
Ouais, moi aussi. Je lis partout et tous, ils me disent,
non, franchement, non. Moi, je connais des mecs de l'équipe qui sont restés jusqu'au bout et ils m'ont dit si.
Ah.
Mais après, ils sont beaucoup sortis du village. Hein.
Bah, je crois que c'est surtout comme ça que ça se passe.
Ouais,
en fait.
Tu sors du village, tu vas faire les. Quand t'as fini, tu fais la fête et tout. Après, tu rentres dans le village. Après, il faut respecter les athlètes qui sont encore en compète et tout.
Là, c'est Camille Lacour, il m'expliquait, lui. Les nageurs, comme ils sont au tout début de la compète, souvent c'est eux qu'on tout le monde vient de checker pour savoir les bons trucs, parce que eux, à la première semaine, ils ont fini.
Ouais.
Et donc ils sortent partout.
Ouais.
Et donc après, t'as tous les mecs qui
leur disent
c'est quoi les bons clubs, où est-ce qu'on va et tout. Donc là, ouais, mais là, Tokyo, j'espère, vous allez du coup.
Bah, j'espère. Nous, on va aller faire une médaille. On a une grosse poule.
Le Brésil déjà dedans.
Il y a le Brésil, les États-Unis, la Russie, il y a vraiment une grosse poule. Mais après, après tout est ouvert quoi.
Ouais,
tu sors de la poule et tout est ouvert. Hein.
Toi, tu as deux enfants, je crois.
Trois.
Et puis ta compagne, en avait déjà, donc t'as trois enfants.
Ouais.
Est-ce que le fait d'être père, ça a changé quelque chose pour toi dans ton approche, je sais pas, du sport, de la vie en général?
Ouais, de la vie en général, ouais. Il y a des choses que tu peux plus faire. Après, au niveau responsabilité aussi, c'est plus la même chose. C'est surtout au niveau des responsabilités. Et au niveau de comment tu réfléchis, tu fais plus les mêmes choses ou tu le fais différemment.
C'est pas compliqué pour concilier ta vie de sportif de haut niveau avec celle de père, tu vois, où tu dois te lever, je sais pas, à 3h du matin.
La vraie chose compliquée, c'est la vie de famille en général. C'est parce que t'es loin, tu pars.
Ouais, tu pars beaucoup,
toi. On fait que partir, on fait que voyager, nous. Donc c'est ça qui est vraiment compliqué, surtout quand les enfants grandissent, parce qu'ils commencent à comprendre, ils commencent à parler, tu rates des moments et tout. Donc c'est ça qui est chaud. Après, c'est aussi pour... Moi, ce que je me dis toujours, c'est que c'est aussi pour eux, pour après, tu vois.
T'as l'impression d'avoir fait des sacrifices, que ça soit plus jeune ou, tu vois, là, quand t'es jeune papa ou...
Même si c'était une superbe expérience et que j'étais dans un super club, la Russie, ça a été un sacrifice au niveau de la vie de famille. C'était compliqué pour les enfants, c'était compliqué pour ma compagne aussi, parce que c'est une autre vie.
Ouais.
Puis là-bas, il fait moins 20 degrés, moins 30 degrés, c'est-à-dire qu'ils vivent enfermés beaucoup.
Ouais. C'est où Kazan d'ailleurs en Russie?
Je peux même pas te dire. C'est à une heure d'avion de Moscou, c'est la seule chose que je
d'accord.
peux te dire.
Et sympa la Russie ou...
Kazan, c'est bien, c'est une bonne ville.
Ah ouais.
C'est une bonne ville.
Et ça, comment ça se passe avec ta femme ou tes enfants? Est-ce que, enfin, j'imagine vous discutez avant, mais tu vois, quand tu lui dis bon, chérie, prends tes valises, on va aller à Kazan.
Ouais.
Ça doit être.
Au début, elle était contente. Au début, ma compagne était contente. Les enfants, ils sont petits, donc voilà. Mais elle était contente parce qu'on était en Italie depuis 5 ans. Connaît beaucoup de monde, tu vois, il y a plein de sollicitations aussi. Parce que la Russie, c'est ça aussi qui a été pas mal par rapport en Italie, t'es sollicité tous les jours, que ce soit médiatiquement.
Donc là-bas, t'étais plus peinard en Russie.
Ah, là-bas, y a rien. Tu vois, par exemple, à Modène, sur le maillot, il y a 45 sponsors. C'est 45 sponsors, faut que tu leur rendes, quoi.
Donc t'as des repas,
t'as des trucs tous les jours, t'as des machins, des photos, des rendez-vous avec eux. Et en Russie, t'as pas.
Ouais.
En Russie, t'as Gazprom.
Et voilà.
Et fin.
Pour terminer, j'ai toujours un truc que je demande, c'est le panthéon personnel. En gros, je vais te demander ton livre ou ton auteur préféré, ton film culte, ton acteur, ton actrice, ta chanson, ton album.
Film et acteur, je sais. American Gangster et acteur Denzel.
Denzel, ça, c'est sûr. Ouais, ça va de pair. Les deux vont de pair. Denzel, très
ça,
fort.
C'est sûr. En série, il y a The Wire que j'ai re-regardé là.
Ah, génial.
J'ai refait The Wire. Walking Dead, je l'ai fait en Russie, alors que j'ai dit je regarderai jamais ça. Et finalement, en Russie, je l'ai fait.
T'avais vraiment du temps en Russie.
Ah ouais, ouais. Musique.
Donc, l'album qui t'a. Bon, si tu devais en garder un.
Bon, si je dis album, je dis.
T'as le droit à trois.
Et le droit à trois.
Ouais, à trois.
Ah, ça va alors.
Parce que c'est compliqué.
Ouais, ouais. Un, c'est chaud. Ouais. Je pense, je vais te dire un album que j'ai beaucoup écouté avec mon père, c'était l'album de Werason. C'est un artiste congolais que
je connais pas. Ouais.
C'est congolais, le Ndombolo, tout ça. Ouais. Beaucoup écouté ça quand j'étais plus jeune. Ensuite, je vais te dire Rof, le code de l'horreur. Les radars ont vu passer un fantôme, je bicrave le trône dans le rap game. J'ai fait ma place comme fantôme. Pour être plus actuel, je vais te dire Gazo, le dernier album de Gazo là, Drill. Gazo, sauce
gars. Parce que tu me checkes que t'es mon sauce gars. Et toi là, si actuellement tu devais faire ton feat rêvé, avec qui tu le ferais?
La dernière fois on m'a posé la question, j'ai répondu Dinos.
Yes.
Tu sais, il fait de la mélancolie, il fait du club, il fait du rap, du rap énervé, il sait tout faire. J'ai beaucoup aimé ses albums, moi.
Ouais, c'est vrai qu'il est bien.
Et les Camerounais.
Et les Camerounais aussi. Ouais. Ok, nice. Bah, merci beaucoup, Erwin. À bientôt.
Et puis, à bientôt.
Bon
merci
courage
de
pour tout, pour la Ligue mondiale, pour les JO.
Les jeux.
Bravo.
Merci
beaucoup. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Et comme d'hab, mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser Franck Ferrand Raconte au classement des podcasts. Ça serait quand même fort. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit, stop it with all the puns, Murph.
The Cheltenham Roar. 70,000 fans cheering as one, as the horses race uphill. Adrenaline, delirium, nerves, spurring them on through the final furlong. Who will conquer the roar? At Cheltenham, you choose, with daily offers, insights, and race-by-race analysis. Don't just bet, choose wisely. Boyle Sports.
18+, bet responsibly. Gamblingcare.ie.